plus qu'à appuyer quand tu
Ça y est, ça commence. Bon, très bien. Chers amis, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons faire une conférence que je n'ai jamais faite jusqu'à présent. D'habitude, à cette date, je prépare une conférence pour préparer, pour faire venir les gens à Dozulé, qui pour moi, depuis 42 ans, est un apostolat merveilleux. On m'a demandé de parler d'autre chose. Donc je vais vous parler de la Bretagne. Et nous ferons une conférence sur Dozulé, au monument du comte de Chambord à Sainte-Anne-d'Auray, quand il fera beau et qu'il fera chaud et qu'on pourra rester dehors sans être dans une salle. Donc, il faut bien comprendre que la Bretagne a une mission extraordinaire pour les événements qui viennent. C'est ce que le Christ disait à Marie-Julie Jaéni, « Bretagne, c'est toi que j'ai choisi. Tu es comme prédestiné. Toi seul soutiendras ta foi. Tu te soutiendras seul. Tu seras bordé comme d'un grillage de fer. Rien ne pourra franchir tes bords. » Ça, c'était en 1878. Marie-Julie, la stigmatisée de Blain, est née en 1850. Elle a habité ensuite à La Fraudaie, juste à côté de Blain. C'est un lieu extraordinaire pour la France parce que, vous voyez, quand même, le cardinal Pacelli, avant d'être Pie XII, est venu la voir. Tellement les messages qu'elle donnait, qui étaient secrets et enregistrés par les frères Charbonnier, qui étaient notaires à Nantes, par le père David, par Madame Grégoire, par d'autres témoins. Ces messages étaient tellement prophétiques pour la France et pour l'Église que, évidemment, ça soulevait beaucoup de questions, même au niveau du Vatican. Et puis, Monseigneur Lefebvre de Lamothe, qui était évêque de Nantes, a reconnu, bien entendu, l'a suivi de très près, transmettait tout cela à Rome. Et elle nous a laissé des messages merveilleux. La Bretagne est une terre de saints. Plus de 600 saints y sont répertoriés. Elle a conservé sa foi, mais malgré l'indifférence générale aujourd'hui, il y reste des racines. Le rejet du catholicisme règne en maître aujourd'hui partout dans le gouvernement et même dans toutes les instances internationales. Mais la Bretagne est promise à un avenir lumineux. Et là, vous voyez, on rejoint le message de la Salette, mais c'est Marie-Julie qui le dit. Lorsque la terre tremblera et que le feu jaillira de ses flancs, quand Paris, la ville corrompue, sera fouillée comme une ruche, quand les chariots marcheront tout seuls, c'est les voitures, il n'y avait pas de voitures, quand les Saxons du Nord et de l'Est se donneront la main pour tuer la France, alors ce sera le temps prédit, les mauvais jours. On brisera les croix, on chassera le Christ, les prêtres fuiront, les religieuses seront dispersées, le démon régnera en maître. Mais alors ce sera à ton tour aussi, à toi, Bretagne. Le Christ et sa mère seront dans la campagne. L'archange Michel rassemblera les siens autour de la bannière de Dieu. Il y aura Claire et Donatien, Guénolé et Yves, avec la grande Sainte Anne. Et les Bretons seront unis comme des frères. Un homme viendra du vieux sang breton et conduira ses frères au combat. Il vaincra les méchants, les chassera de la France. Il conquérera l'île volée par les Saxons maudits. Nul ne le connaît encore. Il sera l'élu de l'archange Michel et après de grandes victoires, il mourra sur sa terre et la Bretagne sera le plus grand des peuples de Dieu, car c'est elle qui rendra le lys blanc à la France. Alors là, bon, ce sont des prophéties anciennes quand même. Paris, la grande ville et tous les méchants qu'elle renferme aura été engloutis dans l'enfer. Ici, nous, maintenant, aujourd'hui, en 2025, nous avons la mission de prier pour que cela n'arrive pas. Vous voyez ? Parce que, justement, c'est pour ça qu'on fait cette conférence. C'est parce que il faut absolument que les Bretons soient informés de la mission qu'ils ont de changer ce cours des événements, d'empêcher que Paris brûle, d'empêcher la guerre nucléaire et de permettre à la foi de revenir. Permettre comment ? Cette mission, c'est celle des paratonnerres. Il faut que nous soyons des paratonnerres, mais quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, chez nous, dans le secret de notre chambre, Dieu entend tout. Il entend beaucoup mieux que si l'on fait de grandes démonstrations. Dans le cœur à cœur avec Dieu se réalisent de véritables miracles. Nul n'est prophète en son pays, c'est vrai, et Marie-Julie, voyez, est restée secrète. Tous ses écrits ont été découverts en 1975, et l'abbé Robert Del avait écrit donc les prophéties de la Fraudet. Et moi, je l'ai connu, bien connu, et donc tout cela a existé véritablement. « Voilà, dit Saint-Michel à Marie-Julie, la chaîne, le grillage en quelque sorte qui sépare la Bretagne de la France. » Et elle répond, « Mais Saint-Archange, est-ce que la Bretagne ne restera pas toujours française ?»« Si, elle sera toujours française, mais elle aura un don de plus. Le Seigneur lui a choisi un nom. Ce nom sera découvert miraculeusement à plusieurs âmes qui auront des révélations. Breton, vous saurez ce nom avant même que la France soit au plus fort de ses iniquités et de sa malice. Ce nom nouveau qu'il sera beau. » Il glorifiera Dieu aussi clairement que le soleil est brillant en plein midi dans la chaleur de juin. Et Saint Joseph lui dit, « Mes enfants, vous devez fouler aux pieds les appréhensions. Vous ne devez plus trembler à l'approche de la colère du Seigneur. Vous devez rester dans votre calme et n'en plus sortir. C'est un privilège accordé aux enfants de Bretagne. J'ai plaidé pour cette malheureuse France et mon fils a répondu « Mon père, je vois la France dans une laideur épouvantable. Elle est si souillée qu'aucune source ne pourrait la laver. Mes enfants, mon fils appelle la France le déluge d'iniquité. Malgré ses malédictions, mon fils accordera le don de protection à plusieurs familles qui se seront comportées charitablement dans la foi » et la reconnaissance pour la grâce divine. Elles seront protégées et elles devront fuir comme moi lorsque j'ai fui en Égypte. « Mais Saint Joseph, nous n'avons pas d'Égypte !» répond Marie-Julie. « La Bretagne sera l'Égypte. » Faites-les connaître à mon peuple ces révélations. Jésus dit « Toute la Bretagne, mes enfants, n'est pas aussi fidèle que la partie qui nous entoure, c'est-à-dire Blain. » Mes enfants, au-delà de vous, il y a des parties qui ne sont pas fidèles. Alors là, évidemment, elle va décrire plus loin la partie qui est au nord de Saint-Lieu, au nord de Sainte-Anne, avec Saint-Laurent qui lui dit « La partie qui est marquée pour être foudroyée, je n'y puis rien faire. » Et la pointe de la Bretagne recevra la plus noire couronne. Et elle dit, « Saint-Laurent, vous interviendrez bien quand même. » Et il répond qu'il n'y peut rien faire. Et pourtant, le Christ, je vais vous lire d'autres textes tout à l'heure, c'est pour ça qu'on se réunit, pour que vous les connaissiez, par une mystique de Reims, Martine, qui n'est pas morte, elle est encore vivante, et qui a transmis ses messages depuis 2000 jusqu'à 2020, où le Christ est d'une miséricorde inouïe, et il nous dit que, la guerre nucléaire peut être évitée si nous prions. J'abrégerai le temps des châtiments à cause de mes victimes, à cause de mon Sacré-Cœur, et enfin pour donner plus vite le roi choisi et élu par mon cœur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi qui énerve tant beaucoup de gens qui sont profondément ignorants de l'histoire de France ? Eh bien, je vous reprends en lecture le texte que Inkmar, l'évêque de Reims, a rapporté, que l'évêque Saint-Rémy a prononcé au moment du sacre de Clovis. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. » Le royaume de France, pas la République française. Ce royaume sera grand un jour entre tous les royaumes et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain. Il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Et Rabonnemort, qui était archevêque de Mayence, dira plus tard, « Vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer son sceptre et sa couronne, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. » Et commentant cette magnifique vision de l'avenir, l'abbé Vial écrit « La prophétie comprend quatre points. La vocation de la France, elle est soldat de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire que c'est exactement l'inverse, hein, mais ça ne va pas durer. Deuxièmement, sa gloire future, elle sera sans égale, mais il y aura bien peu de Français. Marie-Julie nous dit ça, que les trois quarts de la France seront partis, des Français. » Saint Séraphin de Sarov, qui était un grand saint orthodoxe, du moine de Sarov, disait que la nouvelle capitale serait Reims et qu'il resterait 17 millions d'habitants en France. Sous Louis XVI, il y avait 26 millions d'habitants. Troisièmement, sa durée, c'est celle de l'Église. Et quatrièmement, la sanction divine, récompense ou châtiment unique au monde comme sa gloire. Donc, voilà cette prophétie de Saint-Rémy. Hein. Hier soir, j'entendais Philippe de Villiers qui a parlé de Clovis, enfin, à la fin. Il a fini par parler, enfin, de Clovis, parce que face à tous ces journalistes imbus des idées maçonniques et des Lumières qui font partir de l'histoire de France de 1789, bon, évidemment, à la fin, il a quand même dit que depuis Clovis, la France avait une mission qui a duré quand même plus de 1000 ans. Celle de faire connaître le christianisme et celle de répandre la foi dans le Christ. Beaucoup de gens qui sont venus ici, vous ici, vous avez certainement des amis qui vous ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter des prophéties, mais d'où sortent toutes ces inventions ?» Eh bien, qu'ils se mettent bien une chose dans la tête, tous ces braves gens. C'est que il n'y aurait pas de christianisme sans les apparitions. Le Christ a fondé son Église sur Pierre dans la troisième apparition sur le bord du lac de Tibériade lorsqu'il lui fait réparer trois fois sa trahison. « Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que ceci ? Paie mes brebis, paie mes agneaux, trois fois. » Et c'est là qu'il devient chef de l'Église. C'est au cours d'une apparition. Si on ne croit pas aux apparitions, on n'est pas chrétien. Car le Christ a prouvé aux apôtres qu'il était plus qu'un homme. Aucune religion au monde ne peut être comparée à l'histoire du Christ pour la bonne raison que personne n'est mort et ressuscité. Les apôtres n'y croyaient pas du tout. Du tout. La preuve, c'est que quand Marie-Madeleine arrive, elle leur dit « J'ai vu ». Jésus vivant. Et ils lui disent, viens te reposer, tu as besoin de te... C'est le choc. Et elle est furieuse parce qu'il ne la croit pas. Ensuite, quand les deux témoins d'Emmaüs arrivent, c'est pareil. Ils se disent, bon, c'est leur imagination, c'est pas possible. Et quand le Christ leur apparaît, en leur disant paix à vous, ils n'y croient pas non plus. Saint Luc le rapporte. Il dit bien que quand le Christ apparaît, les apôtres croyaient voir un esprit. Ils se disent c'est un esprit, c'est pas lui, c'est pas possible. Vous comprenez, dans la mentalité chrétienne aujourd'hui, judéo-chrétienne, on croit à la résurrection parce que on est habitué par notre éducation, par nos lectures, par notre civilisation, notre culture, à cette possibilité de résurrection. Mais il faut se mettre à leur place. Ils n'avaient jamais entendu parler, pourtant le Christ leur avait déjà parlé de ça avant d'arriver à Jérusalem, hein, qu'il mourrait et qu'il serait donc enterré, puis ressusciterait le troisième jour. Et même quand vous regardez le film de Mel Gibson sur la passion. C'est très intéressant de voir les discussions du Sanhédrin qui disent il faut y aller, mettre des gardes, parce que ils vont venir voler le corps et ils diront qu'il est ressuscité. Et ils donnent beaucoup d'argent aux agents romains, aux soldats romains, pour dire vous n'êtes pas resté là toute la nuit, vous avez dormi. Et on est venu voler le corps. Et eux disent, mais on est resté là et on a vu que personne n'a approché. Quand les deux, les saintes femmes arrivent et qu'elles voient le tombeau vide, elles ne comprennent pas. Et c'est seulement Marie-Madeleine qui, elle, voit ce qu'elle prend pour le jardinier en train de bêcher peut-être, cultiver la terre, et qu'elle lui dit, il l'appelle, il lui dit Marie, et là elle dit Rabboni, c'était le maître. Donc les apparitions, vous voyez, c'est quelque chose que intellectuellement notre intelligence humaine ne peut pas comprendre. Ça n'est pas possible. Si on veut utiliser l'intellect humain, il faut comprendre que nous sommes exactement comme, Jacques Monod, l'auteur du hasard et de la nécessité, qui était devenu parfaitement incroyant et qui disait que bon, c'était le hasard et la nécessité qui faisait qu'il y avait des molécules, des amibes, etc. Et puis alors, on descend peut-être du porc-épic et on est devenu des hommes. Toute la théorie de Darwin, c'est ça. Et c'est archi-faux. Simplement, notre intelligence humaine n'est pas capable de comprendre le phénomène des apparitions. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. La médecine actuelle est totalement ignorante de ce qu'est l'influx nerveux. On ne sait pas du tout ce que c'est. On fait des examens et des biologiques, et des radios, des scanners, etc., sur ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas l'examiner. L'influx nerveux, qui est la cause première de toutes les maladies, on ne sait pas l'examiner, parce qu'on ne sait pas le radiographier. On sait l'enregistrer, mais on ne sait pas le radiographier. Donc tout ça pour dire que notre intelligence, qui consiste à dire « Oh, les apparitions, les révélations, c'est de l'imagination », dans ce cas-là, notre culture chrétienne n'existe pas si on pense comme ça. Tout est venu du phénomène extraordinaire de la manifestation du Christ qui prouve aux apôtres qu'il est bien vivant en leur disant « Est-ce que vous avez quelque chose ici à manger ?» C'est vous qui avez cuit le poisson ? Alors il lui donne un poisson, croyant qu'il était un esprit, et quand il voit le poisson avalé par le Christ, il doit être vivant, hein, il est bien là, puisque. Hein, et quand il dit à Thomas, approche-toi, touche mes mains et touche mes plaies, c'est exactement ce qui est arrivé à Dozulé. 20 siècles plus tard, ça n'est jamais arrivé à aucun mystique, sauf à Madeleine, la nouvelle Marie-Madeleine. Approchez, touchez mes plaies, touchez mon côté. C'était tellement inouï pour elle qu'elle dit après « Ses mains étaient tièdes, comme les nôtres !» Et oui, mais bon, j'en parle pas. Je vais donc continuer sur la Bretagne et vous dire que partout, la France presque entière, nous dit Marie-Julie, sera soulevée contre l'Église. On répandra sans repos sur la foi et l'Église des articles abominables que le monde, sans l'enfer, n'aurait jamais su inventer. Mais vous voyez tous ces scandales, bon, et qui ont un fondement sur les prêtres, sur les mœurs, sur certains qui jettent le discrédit partout, qui mettent l'Église dans une situation épouvantable. Eh bien, les indignes ennemis du Dieu Sauveur qui s'assemblent dans les loges et les remplissent, sentent le moment approcher. Ils sentent que l'Église se casse la figure et qu'ils vont pouvoir lui tordre le cou. Ils vont se lever plein d'espoir pour jeter boue et scandale sur les apôtres de Dieu et sur son Église. Et c'est par eux que la jeunesse finira d'oublier son Créateur et Rédempteur. Voilà pourquoi, peu de temps avant le châtiment, beaucoup d'âmes perdront la foi. Cette terre sera couverte de masses d'hommes coupables qui, du fond des loges, vont travailler à glorifier Satan, à lui élever des lieux de culte dans la plus grande partie de la France. Priez, priez, convertissez-vous, faites pénitence, ne dormez pas comme mes disciples au jardin des Oliviers, car je suis très proche. La colère du Père envers le genre humain est très grande. Si la prière du rosaire et l'offrande du précieux sang n'étaient si agréables au Père, il y aurait déjà sur cette terre une misère sans nom. Mais ma mère intercède auprès du Père, de moi-même et du Saint-Esprit, et c'est pour cela que Dieu se laisse attendrir. Remerciez donc ma mère de ce que le genre humain vive encore. Honorez-la avec un respect d'enfant. Je vous en ai donné l'exemple car elle est mère de miséricorde. C'est donc grâce à ma mère et à cause de mes élus que ces jours-là seront raccourcis. Les jours dont parle saint Matthieu au chapitre 24. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et oui, les pollutions nucléaires, les pollutions atomiques vont faire ce qui s'est passé à Tchernobyl, n'est-ce pas ? Combien de gens ont été d'enfants sont nés difformes et combien même d'animaux sont nés difformes après Tchernobyl ? Soyez consolés, vous tous qui honorez mon précieux sang, il ne vous arrivera rien. C'est encore le temps de mon immense miséricorde. Et pour donner le temps de se repentir, soyez prêts en état de grâce, alors vous serez en sécurité sous ma protection et celle de ma mère. Bon. Voyez, là, elle parle des jours qui seront raccourcis. Le Christ, en 1974, le 31 mai, a dit ceci: « Satan séduit les esprits ». Les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir. Et ce sera la catastrophe, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura plus jamais. Et ceci avant la fin du siècle. Alors, pour vous montrer l'importance capitale de la prière, de votre prière, voilà ce qui s'est passé en 1983. Eh bien, je suis le dernier témoin de ça, les autres sont morts. On était 8 et on a été invité à venir au Vatican par le confesseur Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a pris connaissance du message de Dozulé à cause de son confesseur, le père Joseph Gréco, qui était conseiller pontifical et intime de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a décidé, quand il a lu ce message et la phrase que je viens de vous dire, il a décidé de prévenir tous les évêques du monde entier et de faire la consécration du monde, et non pas de la Russie, au cœur immaculé de Marie. Donc, le 25 mars, donc le père Gréco... Comme je faisais des conférences, les gens voulaient que je vienne. Donc pendant toute l'année 83, j'avais fait ça. Ils voulaient que je réponde. Donc j'étais voir le père Gréco m'a interrogé 3 matinées de suite. Et à la fin, il m'a dit « Surtout, n'arrêtez jamais cet office de lumière. » Et donc le 25 mars 84, le pape consacre le monde au cœur immaculé de Marie. 6 semaines plus tard, le 13 mai, jour de Notre-Dame de Fatima, la plus grosse base soviétique, Severomorsk, à côté de Mourmansk, sur la mer de Barents, explose. Pendant 1 semaine de suite, les explosions passent d'un bâtiment à l'autre. Plus de 100 navires sont coulés. 50% de l'armement soviétique est perdu. Au même moment, un colonel du KGB qui s'appelait Vladimir Vetrov livre à un Français dans la rue à Moscou toute la liste des espions de l'Europe et des États-Unis. Xavier Hamel, c'était son nom, ingénieur chez Thomson, transmet ça à l'ambassade et pendant plusieurs mois, il transmet des documents stupéfiants à l'ambassade de France qui n'avait pas d'espions. Et c'est pour ça que Vladimir Vetrov a pris les Français et non pas les Anglais ou les Américains. Et donc Mitterrand s'en est emparé et il a communiqué avec le président Reagan Et tout de suite, ils ont vu que c'était époustouflant, tout ce qui était donné. Et Vladimir Vetrov a été arrêté, naturellement, parce que Laurent Fabius, Premier ministre, a tendu la liste des espions à l'ambassadeur de Russie à Paris. Et quand il a vu cette liste, il a très bien compris que ça venait de quelqu'un du KGB. Il a été arrêté, torturé, exécuté. Mais tout cela s'est passé en 1983, au même moment où le pape a cru les paroles du Christ dans le message de Dozulé. Cette base explosée et cette livraison de tous les espions du KGB a permis de retarder la guerre de 40 ans. Vous ne seriez pas là sans ça. C'est à cause de ce qu'a fait Jean-Paul II. Mais on n'a jamais voulu en parler dans l'Église. On ne veut pas parler de ces choses-là. Alors que si Jean-Paul II n'avait pas fait cela, eh bien, au lieu qu'on ait la chute de l'URSS en 1990 avec la chute du mur de Berlin et finalement la libération de l'Allemagne de l'Est, hein, nous aurions eu une invasion. Tout était prêt. Aujourd'hui, beaucoup de sites sur Internet nous parlent de la Troisième Guerre mondiale et le message de Garabandal, que j'ai connu quand j'avais 18 ans, en 1965, dit clairement que le communisme sera là quand le grand miracle de Garabandal arrivera. La Sainte Vierge s'est adressée à ses enfants. Il faut voir sur Internet, sur YouTube, ces merveilleux visages d'enfants imprégnés de la présence surnaturelle de la Vierge. Ce sont des petites filles de 12 ans. Elles ne peuvent pas mentir pendant toute leur vie et jouer une comédie pareille. Les plus grands neurologues d'Espagne, les plus grands psychiatres sont venus les examiner. Ils ont bien vu qu'elles étaient d'un naturel complet. Aucun flash ne les faisait scier des yeux. Et là, la Sainte Vierge nous annonce trois choses. L'avertissement, le grand miracle qui convertira le monde à Garabandal et qui laissera une nuée sur place que tout le monde verra. Et ensuite, si le monde ne veut pas se convertir, un châtiment terrible. Eh bien, l'avertissement, je vois plein de choses sur Internet, sur YouTube, mais qui divaguent. On voit que les faux prophètes s'emparent de tout ça pour essayer de tout mélanger et inventer, faire du YouTube et faire des quantités de vidéos qui leur... Les enfants ont été très clairs. Ce qu'il y a de formidable chez les vrais prophètes, c'est que ce ne sont jamais des gens cultivés, jamais des gens d'une classe sociale supérieure, jamais des gens qui sont formés intellectuellement à la théologie et qui ne connaissent même pas souvent les évangiles. Le Christ ne se sert pas de l'intelligence humaine, il dicte à ses enfants ces trois grands événements. L'avertissement, il n'arrivera que quand l'Europe sera occupée aux trois quarts par les Russes, par le communisme, et qu'on ne pourra plus célébrer la messe, sauf ici en Bretagne et dans la partie ouest, puisque la zone occupée, d'après le Père Pell et d'autres, le Padre Pio, ce serait depuis Bordeaux une ligne jusqu'au Havre. Tout ce qui est à l'est serait pris. Et ça fait partie de nos prières tous les jours pour empêcher que ça arrive. Parce que, par exemple, l'abbé Souffrant a bien indiqué que quand les Russes arriveraient sur le Rhin, d'un seul coup, ils se convertiraient. Et que le chef russe, le nouveau tsar, protégerait à ce moment-là le futur roi, le futur dirigeant de la France et l'Église. Il y a d'abord une période de grande confusion dans laquelle on est, hein, qui monte, qui va tout droit à l'effondrement financier. Hein, il n'y a qu'à voir la montée extraordinaire de l'or et les BRICS qui font monter, etc., les banques centrales et en ce moment, et en même temps qui fait caracoler la bourse d'une façon complètement idiote, parce que ça ne correspond à rien. Une bourse qui monte comme en ce moment, c'est un symptôme de fin de cycle, hein. et on est à la veille d'un effondrement complet. Et donc, après cet effondrement, ben évidemment qu'il y aura une révolution. Et à ce moment-là, la gauche se frottera les mains en se disant « Bon, à nous, le communisme, à nous, le LFI et compagnie. » Et c'est là qu'ils feront des persécutions. Et c'est là que la Russie interviendra, quand elle verra cette anarchie en Europe. Alors, c'est pas pour tout de suite. Le grand miracle doit arriver entre mars et mai, en avril, entre le 8 et le 16, un jeudi à 8h30. Ça fait 60 ans que j'attends ça, moi. Eh bien, on l'a calculé combien de fois, hein, en espérant que ça venait, puis ça venait pas. Et donc, ce grand miracle, hein, vous pouvez prendre le calendrier, 25, non, 26, non, 27, non, 28, 13 avril 2028, ça correspond. Saint-Herménégilde, effectivement. Alors, ça arrive, oui, mais pas en temps de paix, en plein dans les événements, en pleine guerre, quand l'Europe est déjà occupée. Et à ce moment-là, il y a une conversion très importante due à cela. Conchita a été reçue quand elle avait 16 ans par Paul VI, qui lui a dit « Conchita, je te bénis et avec moi, toute l'Église te bénit. » C'est le pape qui parlait à Conchita. Donc, maintenant, revenons à la Bretagne. Parce que nous avons, nous, ici, qui vivons en Bretagne, ma femme est bretonne, pas moi, mais et je sais que, ça, même si ça fait 55 ans que je vis en Bretagne, les Bretons, ici, ont une hérédité extraordinaire avec ce qui est annoncé par la sœur Marcel Lanchon, qui a reçu les trois secrets concernant la Bretagne, au sujet dont parlait Marie-Julie, et qui disait que lorsque la Bretagne les connaîtrait, les Bretons seront très heureux. Et le ciel révéla à Marie-Julie trois grands secrets concernant la Bretagne. « Ma chère Bretagne, j'ai pour toi dans mon cœur trois beaux secrets qui sont au bord de mes lèvres. Je n'attends qu'une parole de la Sainte Trinité pour te confier dans leur puissance et leur douceur. Ils seront pour vous, enfants bretons, un véritable baume. Quand vous les aurez reçus, vos cœurs s'épanouiront de joie et vous ne craindrez plus rien. Ni les bruits, ni les assauts, ni les voix impies ne retentiront dans les contrées de la Bretagne bénie. » Le Seigneur laisse encore un espoir à la France, c'est qu'elle a encore un reste de vie. Tout le ciel s'occupe d'elle, tous les saints et toute la cour céleste prient pour elle. Mais plus on prie, plus elle semble maudire Dieu. L'heure de Dieu n'est pas loin. Cette terre profonde fera ressortir le triomphe de la nouvelle France. Alors, la nouvelle France, c'est pas celle de Mélenchon, hein. Les trois secrets ont été donnés à Marie-Julie, mais non publiés par son biographe, le père Robert Dell, qui note, page 103 des prophéties de la Fraudée, inconnus à ce jour. Mais la sœur Marie-France de Versailles, Marcel Lanchon, les a reçus au même moment. Il n'y a pas plusieurs versions des trois secrets donnés par le Christ à ses mystiques, surtout concernant la Bretagne. Alors voici ces trois secrets. Le premier, avec la venue du Christ rédempteur, il y a eu à cette époque une scission chez les Hébreux. Les tribus qui suivirent le Sauveur immigrèrent en Bretagne. Cette terre reçut en grand nombre les Hébreux qui acceptèrent notre Seigneur Jésus-Christ. Les Bretons descendent des Hébreux de ceux qui ont cru. Ce peuple hébreu qui immigra était issu de la lignée la plus lumineuse dont sont issus Sainte Anne et Saint Joachim, en passant par les saints patriarches jusqu'au roi David. Le royaume de Bretagne porte le sceptre et la couronne. La Bretagne est l'âme de la France et c'est la nouvelle Israël. Soyez dans l'espérance, car la fille aînée de l'Église ne périra jamais. Elle porte le sceptre et la couronne de notre divin maître. Second secret. La Bretagne, à elle seule, revient la légitimité, le droit d'aînesse, la primogéniture. Le roi véritable qui sera offert à la France est roi de Bretagne par une prédisposition de la divine providence. Ses ancêtres régnèrent sur la France et sur la Bretagne, qui fut un royaume au temps jadis, du temps où elle était un duché. Il est l'aîné. Saint Joseph, Sainte Anne, Saint Joachim, il est la chair de leur chair. Il n'y a rien de plus grand, de plus excellent dans l'univers pour exalter la royauté de Jésus-Christ. Le roi de France et de Bretagne est la clé unique, la pierre angulaire, le joyau choisi par la très sainte Trinité et par mon cœur immaculé pour restaurer la royauté au pays du Lys. Votre roi est apparenté à la famille de Nazareth et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Il est l'élu au milieu du peuple élu. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire ça. Divulgation du troisième secret. L'arche d'alliance est le signe du Dieu vivant. Elle fut transportée par ma lignée, c'est-à-dire descendance davidique de la famille de Marie, sainte, sur la terre de Bretagne. L'histoire du peuple de Dieu avec l'ancienne alliance et la bonne nouvelle de la rédemption se perpétue. Elle contribue à la continuité de la race sainte. Cette race sera toujours victorieuse tant qu'elle demeurera avec moi par la grâce de Jésus. L'arche d'alliance porte en elle la puissance du Père éternel, la puissance de sa parole par les 10 commandements qu'il a édictés. Moi, fille de Sion, je désire que cette arche demeure dans les palais du roi pour y être vénérée par mon peuple, en louant Dieu pour avoir fait cette alliance avec les fils des hommes et de la fidélité à sa promesse. Marie, arche de la nouvelle alliance, priez pour nous. Voilà. Donc seul, en fait, c'est ce que dit sœur Marcel Lanchon, qui était de Versailles et qui a donc reçu ça de la Vierge. Ces 3 secrets concernant la Bretagne sont mystérieux et merveilleux à la fois, parce que ça rejoint exactement ce qui s'est passé quand Lazare, Marthe et Marie-Madeleine ont été mis sur une petite barque prenant l'eau, prête à couler, parce qu'ils étaient tous les 3 frères et sœurs, issus d'une famille princière syrienne. Ils étaient des gens très riches qui avaient des châteaux et qui ont entretenu dès le départ la communauté chrétienne. C'est eux qui ont reçu Jésus la veille du dimanche des Rameaux, et Lazare a été ressuscité par lui à ce moment-là. Et évidemment, c'était le scandale des Juifs de voir que le Christ avait ressuscité Lazare, parce que les Juifs étaient témoins. Les Juifs qui étaient amis de Marie-Madeleine, de Lazare et de Madeleine étaient venus, et de Marthe étaient venus donc devant son tombeau, et ils sentaient déjà. Et le Christ lui dit de se lever. Et à ce moment-là, il y a ce miracle extraordinaire qui montre qu'il a le pouvoir sur la vie, hein, de ressusciter un homme. Et donc, ils avaient décidé de le tuer. Les Juifs, le Sanhédrin, avaient décidé de le tuer parce que ça entraînait beaucoup de Juifs à se convertir au christianisme. Ils sont sur leur barque au large de la Palestine et miraculeusement, ils arrivent au Sainte-Marie de la Mer. Et Sainte-Marie de la Mer, vous savez, c'est à côté du Gros-du-Roi, dans le sud. Et c'est là que, donc, chaque année, les Gitans viennent fêter Marie-Madeleine. Marthe a évangélisé la vallée du Rhône. Marie-Madeleine a vécu dans la grotte de la Sainte-Baume, où elle était ermite. Saint-Maximin venait lui donner la communion une fois par semaine. Elle vivait là. Et donc Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Ils ont été bien accueillis par la population de Marseille. Et tous les amis en question de cette famille qui était très connue là-bas, en Israël, en Palestine, sont venus en Gaule. Alors les gens disent « Mais qu'est-ce que vous êtes chauvin, hein ? La Gaule, la France. » Même Martine, mystique de Reims, dont je vais vous lire les extraits maintenant parce qu'on va passer à ça, elle disait « Moi, je suis de gauche. Je crois à la valeur des droits de l'homme. » Le Christ lui répond, tu es un crayon, tu écris et tu transmets à ceux qui doivent comprendre. Tu écris et c'est tout. Voilà un prophète. C'est pas quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui dit l'inverse de ce qu'elle pense. Je suis républicaine et de gauche, dit-elle. Et le Christ lui dit sans arrêt des paroles sur le roi qui va venir. Mais toujours avec une douceur extraordinaire, une bonté, une gentillesse et une poésie. Comme il dit, il est le grand troubadour, le grand poète. Et ça, on voit bien que ces poèmes ne sont pas des poésies d'un homme. Donc, avant d'arriver à elle, il faut, oui, se souvenir de cette parole du Christ. Pourquoi la Gaule, vous êtes chauvin ? Mais pas du tout. La Gaule, c'était le peuple dont parlait le Christ aux Juifs, dans la parabole des vignerons homicides. Il leur dit, oui, vous voulez tuer le fils du propriétaire. Vous avez tué tous ses envoyés, c'était les prophètes. Et maintenant, pour avoir l'héritage, vous voulez le tuer. Et il dit, à ce moment-là, cette parole dont on se souvient peu, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Eh bien, ce peuple, c'était la Gaule. C'était la Gaule où sont venus les amis du Christ et où la fameuse Pax Romana a permis donc l'instauration du christianisme avec les évêques, avec les premiers martyrs, avec Lyon, avec tous les saints qui ont donné leur vie, Sainte Blandine, etc. Et donc, ensuite, Clovis, premier roi chrétien, à la suite de la victoire de Tolbiac, décide de se faire catholique, de se faire chrétien plutôt. Et donc, il se fait baptiser par Saint Rémy, il se fait instruire par Saint Rémy, grâce à l'intercession de son épouse, dans la session de son épouse Sainte Clotilde, et sa victoire à Tolbiac, ils étaient 15 000 contre 45 000 Alamans, et ils ont gagné. Et là, il a compris que le signe de Dieu était bien présent dans cette victoire. Et en plus, il y a eu, la veille du sacre, cette apparition du Christ, dont on parle très peu, au milieu de la cour, devant Sainte Clotilde, Clovis, Saint Rémy et tous ceux qui étaient là. Et le Christ leur a simplement dit « La paix soit avec vous, n'ayez pas peur, persévérez dans mon amour. » L'amour, voilà ce que le Christ répète sans arrêt. Ça n'a rien à voir avec l'amour humain, hein. Ça n'a rien à voir avec les sentiments humains. C'est un amour, une puissance, une créatrice extraordinaire dont on ne connaît rien. On ne connaît rien. Quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça veut dire « aimez-vous jusqu'à donner votre vie pour les autres ». Mais on ne connaît rien à cette puissance extraordinaire. Alors, on peut dire quand même qu'Internet, ce coup-là, est intéressant dans ses témoignages de EMI, des morts imminentes, d'expériences de mort imminente, où les gens reviennent en disant qu'ils ont découvert un amour, mais extraordinaire. Je me souviens d'une femme qui disait qu'elle était très amoureuse de son mari, qu'elle avait 5 enfants, elle était morte d'un arrêt cardiaque, et elle était revenue grâce aux soins palliatifs, et elle disait « l'amour est fade ici, l'amour est fade », alors qu'elle aimait beaucoup son mari. Et elle avait connu cet extraordinaire amour de l'autre côté, en disant « j'étais au-dessus de mon corps, je suis arrivé devant le Christ ». Et combien peuvent témoigner ? C'est plus 10 000 ou 15 000, c'est des centaines de mille, si bien que de témoignages. Si bien que les soins palliatifs aujourd'hui, surtout aux États-Unis, ont énormément évolué grâce à des médecins qui ont fait donc des expériences voyant que ce n'était ni dû à modifications biologiques ou à des réactions particulières de imaginatives, mais véritablement une expérience de vie qui montre que le moi, la conscience, s'élève au-dessus du corps et que véritablement la vie continue. Et on découvre un autre monde, d'autres planètes, d'autres demeures. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du ciel, oui, dans la maison du Père. Voilà. Revenons maintenant à notre mission, parce que c'est là que vraiment le Christ nous attend. Je vous ai parlé de Martine. Eh bien, effectivement, le Christ lui a dicté de 2000 à 2019 des messages merveilleux pour nous en France. Dieu a fait pour la France le programme bien pensé de lui donner un roi pour la désenchanter. Dieu, par son roi, fera retomber toutes les chaînes qui la tenaient couchées. Dieu va la relever, sa France, son aimée, par le roi préparé qui vient pour maintenant. Inutile de faire des projets sur le roi. Moi seul, je le nommerai quand je le déciderai. Car c'est un descendant du bon roi qui sera désigné. Le bon roi, c'est toujours Saint-Louis, et aussi le roi martyr, Louis XVI, il sera désigné par le roi, c'est-à-dire par Dieu, le roi des rois. Le ciel dira, c'est lui, le descendant du roi. Dieu désigne et décide. Le roi priez pour protéger le roi que Dieu envoie, car les loups sont lâchés et veulent le dévorer. C'est pourquoi Dieu demande simplement de prier pour protéger le bon roi. Le bon roi. Parce qu'il dit tout le temps, vous voyez, que ce roi, actuellement, il y a deux prétendants officiels, parce que des rois, on en a à peu près un tous les mois qui me téléphone. Eh bien, il y a le comte de Paris, descendant des Orléans, le prince Jean. Son père était persuadé qu'il deviendrait roi. Et son grand-père, en fait, du prince Jean, c'était aussi le comte de Paris qui s'était allié avec De Gaulle, espérant que De Gaulle lui laisserait cet héritage. Et il a appelé à voter pour Mitterrand. Il était fondateur de la loge d'Ulysse. C'était un franc-maçon de première, comme tous ses ancêtres, jusqu'à Philippe Égalité. Puisque Philippe Égalité était grand maître du Grand Orient de France, au moment de la Révolution, et qu'il avait voté la mort de Louis XVI, son cousin. Donc, il y a le prince Jean, et ensuite il y a celui qu'on dit être Louis XX. Bon, c'est un brave homme, ça, il n'y a pas de doute, il est très sincère, les légitimistes, il y en a ici, il y en a partout, croient qu'il est descendant de Louis XIV. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que dit le Christ à Martine. Il lui dit, il y aura trois rois. Le premier n'aura ni le pas, ni la voix. Il sera gauche. C'est le prince Jean, c'est le comte de Paris. C'est typique de lui. Le deuxième n'aura ni la force, ni le cœur. Louis XX dit, je ne suis pas prétendant, je suis disponible. Mais il n'est pas capétien. Il ne descend pas de Louis XIV, comme il le dit. Sa famille le lui enseigne depuis le début de sa vie. Mais en fait, il descend du dernier fils de Marie-Louise de Bourbon-Parme et de son amant Manuel Godoy, qui était Premier ministre, et qui, Marie-Louise a eu 14 enfants, et c'est son 14e enfant. Il y en a 7 qui sont morts. Et Ferdinand VII, le fils de Charles IV, lui, n'a pas eu d'enfant, sauf une fille, et donc, avec la loi salique, elle ne pouvait pas gouverner. Si bien que Ferdinand VII a fait valider par les Cortés la succession descendant de Manuel Godoy. Et ça, c'est quand même une chose très importante, parce que le Christ dit bien ici que le roi qui vient a la bonne descendance, sans mélange. Je demande... j'ai besoin... Alors voilà pourquoi il est important aujourd'hui de retenir ceci. Je suis Dieu de la vie et aujourd'hui quémandeur de ton oui. Je demande ton aide pour pouvoir mieux aider mes enfants. J'ai besoin de petits serviteurs porte-flamme et de la femme flamme porte-Christ par le Christ. Porte-cœur du seul cœur par Jésus Sacré-Cœur. Moi, ton dis-je, mon ton Dieu, je te prie enfant de me servir, servir Dieu et la France en osant dire pour moi, Dieu appelle son roi qu'il s'en vienne pour servir, qu'il s'en vienne pour guérir la France de sa folie de vouloir faire son Dieu, de vouloir faire sans Dieu. Le bon roi qui viendra au chevet de la France portera chapelet, puisqu'il porte déjà la croix et la médaille. Voilà, le chapelet du roi fera date dans l'histoire, etc. Inutile de faire des projets sur le roi. Moi seul, je le nommerai. Il faut être extrêmement prudent dans cette confusion formidable qui va arriver avec la fin de Macron et la fin de ce gouvernement qui est complètement anarchique. Quand on entend Macron dire avant-hier, là, au sujet de l'IA, l'intelligence artificielle, que son but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour le changement climatique et l'idéologie du genre, mais on se demande mais vraiment même par où on en... jusqu'où on va tomber pour arriver à des bêtises pareilles, l'idéologie du genre. Si ça lui pose un problème, il faut vraiment, vraiment que les Français réagissent et comprennent qu'ils se sont complètement trompés en suivant ces partis qui se disputent pour un pouvoir. Ils se disputent pour avoir des chauffeurs, pour avoir de l'argent, pour avoir des honneurs, pour avoir des logements gratuits, pour avoir toutes sortes de bénéfices et de privilèges. C'est 10 fois pire encore que avec ceux qui venaient mendier des pensions à Marie-Antoinette ou avant. Écoute, enfant que j'aime, c'est un bon roi qui vient donner de l'oxygène aux Français qui étouffent dans le carcan serré du tyran de l'argent. Écoute, enfant que j'aime, c'est un grand roi qui vient pour redonner confiance aux petits de la France, aux petits démunis qui retrouveront souffle par les petits métiers. Vous voyez, il ne nous parle pas d'intelligence artificielle. Et grands secrets de ce temps reviendront aux villages, boulangers et servants de la terre nourricière, reviendront villageois qui chanteront au chant. Il y a plein d'ingénieurs, de gens qui ont fait des tas d'études, qui reviendront à une vie simple, parce que la seule chose dont on ne peut pas se passer, c'est la nourriture, donc la terre. C'est la seule chose qui sera vitale. Et... Mère Marie de la Croix disait qu'après les événements qui viennent, il ne restera que 2 valeurs, l'or et la terre. L'or parce qu'il faut refaire une monnaie sur un étalon tangible et non pas sur des monnaies qui soient complètement fictives comme les crypto-monnaies. Non, l'or depuis 5000 ans est une valeur tangible et nous aboutissons aujourd'hui au pic, au gold pic. C'est-à-dire que la demande est 10 fois plus forte que l'or qui existe. Et on ne trouve plus d'or. Ça, c'est un signe aussi. On ne trouve plus d'or. Les mines d'or se vident et il n'y en a plus. Et donc, effectivement, la sœur Erna Stieglitz disait que l'or montrait à 10 à 40 fois sa valeur actuelle pendant les événements. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas qu'on devient riche en ayant de l'or, ça veut dire que la monnaie ne vaut plus rien. Et Padre Pio a dit que nous ferions des boules de papier pour allumer le feu avec la monnaie fiduciaire, avec les euros. Voyez. Donc ici, ce roi arrive par sa grande naissance et ce sera très facile pour lui de prouver sa généalogie et d'expliquer ce qui s'est passé au moment justement où on a dit que Louis XVII était mort au temple. Et parce que, quand même, lui, il se souvient de ce qui s'est passé. Son arrière-arrière à 7 générations, Louis XVII se souvenait tout de même de ce qu'il avait vécu et qu'il avait été donc évacué. C'était le prince de Condé qui avait financé cette évacuation avec Simon le cordonnier et son épouse. Et le petit Louis XVII avait été mis dans des corbeilles de linge sale le 19 janvier 1780. 14, et donc avait été évacué. Et celui qui est mort, il avait été substitué. Et après, celui qui a été substitué a été enfermé, on ne pouvait même pas le voir, et était enfermé dans... et on lui passait des plats simplement sans qu'on puisse le voir. C'était voulu, c'était un autiste, c'était un malheureux, et il a servi d'appât, en fait. Et quand les trois médecins, il y avait le docteur... Dessault, le docteur Chopard, l'articulation, et un autre, on dit, mais
le docteur de Sceaux, qui avait été médecin de l'enfant de Louis XVII, hein, le fils, deuxième fils de Louis XVI, il l'a vu et il a dit « mais ce n'est pas lui ». Quand il a vu l'enfant du temple, hein, qui était mort, « mais ce n'est pas lui ». Il a dit ça bêtement, parce que la Convention l'a entendu. Ils l'ont invité à un dîner, et le lendemain matin, il était mort. Le docteur Chopard est mort une semaine après, et l'autre, dont je ne me souviens plus le nom, Baucher, je crois, est mort exactement 3 jours après également. 3 médecins morts pour avoir compris qu'on avait substitué l'enfant. Et la Convention, en plus, a envoyé des commissaires sur toutes les routes de France pour arrêter Louis Capet, le 8 juin, le jour de la mort de l'enfant du Temple. Vous voyez ? Donc, il faut garder cette confiance. En plus, les deux tantes de Louis XVII, Adélaïde et les filles de Louis XV, et donc les deux tantes qui étaient à Trieste, en Italie, s'échangeaient du courrier, se donnaient des nouvelles du petit Louis XVII, après, qui était parti en Vendée, puis ensuite aux États-Unis, au Portugal d'abord et aux États-Unis, et avait donné une descendance. Donc, tout ça, ça a été analysé. Mais quand il viendra à lui, ce sera très facile de lui demander sa généalogie. Et en plus, le Padre Pio, qui était quand même un homme qui avait la vision des âmes, la vision de certains secrets, disait qu'il y avait un importantissime secret au Vatican, dans une armoire qu'on trouverait au moment voulu, qui dévoilerait la vraie identité de la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire c'est celle qui se disait... la sœur de Louis XVI, mais en fait, c'était pas la sœur de Louis-Charles, Louis XVII, mais qui a été substituée, elle aussi, et qui n'était pas la sœur de Louis XVII. Donc, elle a donné ce testament au Vatican, où se trouve toute la généalogie, où se trouve l'explication de son nom, duchesse d'Angoulême, c'était Ernestine Lambriquet, qui était une enfant adoptée par Marie-Antoinette, fille d'un serviteur du comte de Provence, qui était donc son beau-frère, le futur Louis XVIII. Et à ce moment-là, Ernestine Lambriquet avait eu la même éducation que Marie-Thérèse, donc la sœur de Louis XVII, à la cour, et elle a épousé ensuite le duc d'Angoulême. Une des preuves, c'est que quand elle est venue à Nantes, la bourgeoisie, la noblesse de Nantes, ont voulu faire une messe en faveur en souvenir de Louis XVII, et qu'elle leur a dit « non, c'est pas la peine, ça sert à rien tout ça ». Évidemment, parce qu'elle savait bien que Louis XVII était vivant. Il n'y avait pas de messe à faire à Nantes. Donc, qu'est-ce qui nous importe à nous, maintenant, nous, ici, en Bretagne ? Eh bien, c'est de bien comprendre que le Christ nous dit « Soyez sages, mes enfants, ne cherchez pas le roi, ne le désignez pas. Seul Dieu désignera le bon roi de son choix. Si parmi vous s'avance un roi qui se désigne, acceptez qu'il soit là, potentiel roi de droit, et puis enfants, priez, surtout priez pour que Dieu vous désigne celui qu'il a choisi. Seul Dieu désigne du roi, Dieu décide du roi, seul Dieu dira le roi. En attendant, priez pour protéger le roi que seul Dieu désignera au précaré par le signe de la croix. » Alors, le précaré, qu'est-ce que c'est ? Alors, on ne sait pas, parce qu'il ne dit pas, heureusement. Mais il dit quand même une chose, un jour vous serez en prière, vous, les cœurs croisés, et vous verrez un homme arriver avec une grande croix lumineuse au-dessus de lui. Alors, le précaré, ça peut être quelque part en France. Le précaré de Vauban, c'était la France. Le précaré des amis, ça peut être un endroit, un autre. Le précaré des cœurs croisés, pour nous, pour l'instant, c'est le monument du comte de Chambord, qui a été béni par Monseigneur Santène, le parc. Et donc, c'est ce lieu... peut-être, où il viendra. Mais je peux vous dire qu'en 2012, Louis XX, duc de Ségovie et de Cadix, qui n'est pas reconnu par la maison royale d'Espagne, est venu au monument du comte de Chambord. Moi, je n'ai pas vu de croix au-dessus de lui, hein, du tout. Ce n'est pas lui du tout, le roi. Le roi qui vient, c'est un homme de Dieu, c'est un envoyé spécial de Dieu. Là, c'est pas un homme comme nous. C'est quelqu'un qui a la vision des âmes. C'est quelqu'un qui a une capacité charismatique extraordinaire. Une capacité de faire la paix. Le Christ nous dit qu'il mettra le fourreau, l'épée au fourreau tout de suite et qu'il fera la paix en négociant, en parlant, en prêchant. Il ne viendra pas en costume cravate, il viendra en robe de bure avec un capucin revêtu de la coquille Saint-Jacques, du chapelet, de la médaille miraculeuse et il prêchera. C'est un consacré. Actuellement, il vit à l'étranger. On pense qu'il est en Irlande. Mais on n'a pas le droit de le chercher. Il y a bien des gens qui m'ont dit « Oui, il est là-bas. Tu ne veux pas le reconnaître. Il est là-bas. C'est lui, c'est lui. » Moi, je ne cherche pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Quand il viendra, on le verra. Nous ne sommes pas des royalistes. Nous sommes des serviteurs de ce que demande le Christ. « Formez ma tendre armée. » Formez ma tendre armée, faites mon association, c'est le Christ qui parle, hein. Faites mon association, cœur croisé de l'amour. Et il nous dit que le roi viendra et qu'il suivra sa tendre armée des cœurs croisés. Ça paraît un peu extraordinaire. Si j'avais 30 ans, je serais quand même emballé, hein, parce qu'on... Moi, à mon âge, l'avenir est plutôt de l'autre côté. Mais c'est quand même formidable d'avoir cette espérance. Et c'est pour ça qu'il faut la partager. Vous voyez ? Nous devons être, par notre prière, nous devons être des paratonnerres pour le roi, pour la France. Anne-Marie, ça t'ennuie pas de me donner la petite brochure des cœurs croisés, là, la jaune, là ? Oui. Donc, le Christ a demandé « Formez ma tendre armée, faites mon association, cœur croisé de l'amour. » Eh bien, ce qu'il nous demande, c'est de nous assembler et de prier ensemble, ou chacun chez soi, dans sa chambre, avec les prières qu'il nous a dictées. Merci beaucoup. Donc, il faut bien comprendre que Martine était incapable d'inventer tout ça. La prière des enfants gagnera cette guerre par Marie, la maman, Paris sera sauvé. Ben c'est quand même autre chose que Paris brûlera et qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Dieu a besoin de vous, soldats. Faites prière pour éviter la guerre. Dieu vous supplie, enfants, de prier notre Père en faisant l'union des prières d'Église. Cessez vos chamailleries. Cessez donc vos querelles. L'heure est de s'assembler en commune prière. L'heure n'est plus au discours pour débattre d'un point, d'une virgule, d'un texte. L'heure est de prier pour la terre en danger. Fiers soldats de l'amour, gardez paix en vos cœurs. Au milieu des tourments, mettez genoux à terre en tenant droite la croix. C'est l'épée du combat, c'est la force du roi que Dieu a désigné. Et c'est au précaré que se dresse la croix qui désigne le roi. Enfant, fais-moi confiance, je suis celui qui dit, je suis celui qui suit, je suis le Dieu de vie. L'infâme prépare la guerre, il faut prier, c'est tout, pour empêcher la guerre. La paix est à ce prix, le prix, c'est la prière. Priez, enfant, priez pour Paris Notre-Dame. Vous voyez, Notre-Dame a brûlé, je crois, le 15 avril 2019, deux mois avant, le Christ avait prévenu Martine en lui disant « Marie gardera le cœur de Notre-Dame en dehors des flammes ». C'est exactement ce qui est arrivé. Il l'avait prévenu et il lui avait dit que Notre-Dame brûlerait. Et là, il nous fait tout le temps prier pour Paris Notre-Dame. Et le Christ, dans les évangiles, nous dicte la prière de notre Père. C'est la prière de base, hein, dictée par Dieu. Hein, et là, il nous demande... Alors, dans cette petite brochure, hein, qui vaut 5 euros, c'est vraiment... Ce sont les paroles du Christ, personne n'a inventé ces prières, aucun prêtre ne s'en est mêlé, elles ont été dictées. Alors il y a la consécration aux deux cœurs unis, ça on le fait tous les jours au début, et puis ensuite, c'est lui qui le dit, « Ouvrez vos cœurs à Dieu et priez simplement, en disant simplement, « Seigneur, je m'abandonne à ta miséricorde, à ta main je me donne pour servir ton royaume, je suis ton serviteur et servant, j'abandonne ma vie, mon cœur, mon âme à toi, miséricorde, Seigneur, je m'abandonne à Dieu, miséricorde. » Et il nous dit, « Quoi qu'il arrive, ne prenez pas les armes. » Les cinq premiers tomes s'appellent « Seul l'amour sauvera le troisième millénaire ». Et ensuite, il y a eu 6 tomes, parce qu'il y en avait un chaque année, « L'amour contre la haine ». Et ensuite, j'ai réuni les textes qui ont été dictés avant, de 2000 à 2010, « Le roi choisi par Dieu ». Ils sont dictés pour la plupart en vers de 6 pieds. Bah, prenez une page blanche, faites des vers de 6 pieds en 10 minutes sur toute une page. Moi, je ne sais pas le faire. Hein. Et j'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui fasse ça. Eh bien là, ce sont des vers dictés. Ô Seigneur de la vie, à genoux nous venons pour implorer pardon pour la France, ton aimée. Voilà. Et c'est ça. Ce sont ces prières que nous disons tous les samedis à Sainte-Anne-d'Auray. Et nous sommes relayés sur le site... donc des cœurs croisés qui s'appelle la trait d'union nouvelle trait d'union France avec un petit f.fr. Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis, tous les mercredis maintenant je publie une lettre sur le site lanouvellefrance.fr. Et là nous venons de créer un autre site, les amis de Dozulé, pour faire la différence, pour pas mélanger. Pardon ? À Sainte-Anne-d'Auray, on se réunit à 14h tous les samedis, depuis 14 ans. Et je remercie ceux qui viennent, parce qu'il y a toujours une bonne ambiance, ils sont toujours chaleureux, il n'y a jamais de dispute ni de mésentente. Et depuis 14 ans, ça dure, tous les samedis, on prie, là, dans la chapelle de l'Immaculée, derrière, au fond, du cloître, là, et nous demandons ce pardon pour la France, nous demandons cette venue du roi. Et nous le faisons à haute voix, nous sommes dans la chapelle de l'Immaculée, et dès qu'il fait plus de 12 degrés, nous allons au monument du comte de Chambord, quand il fait assez chaud. Donc à partir du mois à la mi-avril à peu près, on va au monument du comte de Chambord. Et voyez, la prière, eh bien cette prière, c'est celle que le Christ nous dicte, avec des accents qui nous touchent vraiment. Il nous donne une véritable feuille de route. Nous sommes les cœurs croisés, cœur uni à Marie, cœur uni à Saint-Louis. Nous marchons pour la France. Père très saint, notre Père, sois le libérateur de la France, ton aimé. Envoie ton Esprit Saint souffler l'amour du Fils. Envoie l'Esprit d'amour révéler la Sainte Croix. C'est cette croix qui doit désigner le roi. Et c'est cette croix, la croix glorieuse dont parle le Christ tout le long dans les messages de Martine, qui doit apparaître au monde entier, arrêtant la Troisième Guerre mondiale, miraculeusement. C'est ça les 3 jours de ténèbres. C'est cet hiver nucléaire qui doit être très court, 3 jours, et à la fin duquel, Sainte Faustine le disait déjà en 1935, apparaîtra la croix glorieuse, le signe du Fils de l'homme, et toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Vous voyez, dans toutes les Écritures, il n'y a pas un endroit, pas un seul, où les hommes se frappent la poitrine, tous en même temps. Les noirs, les blancs, les jaunes, tous se frappent la poitrine parce qu'ils voient cette croix apparaître. Et à ce moment-là, la guerre s'arrête. Et c'est la grande conversion. Pour ceux qui restent, parce que ce châtiment du ciel qui est annoncé à Garabandal après le grand miracle, enlève les 3/4 de l'humanité. À cause des gaz toxiques. Et Marie-Julie nous le dit, et d'autres, bien d'autres, surtout, priez le rosaire, enfermez-vous dans votre maison, n'ouvrez pas les portes ni les fenêtres, fermez tout pendant 3 jours et priez sans cesse. 3 jours de tempête épouvantable, d'orage, de pluie diluvienne, et à la fin, de tremblements de terre, et à la fin, cette immense croix qui apparaît, et la paix qui revient. c'est l'arrêt brutal et heureusement de la guerre nucléaire. Le Christ nous demande de prier. La Sainte Vierge à Amparo, à l'Escorial, à côté de Madrid, disait « La Russie détruira tout, ce sera l'instrument de Dieu. » Et c'est pas Poutine. Hein. Ce n'est pas son successeur, c'est celui d'après, qui est un communiste, un général communiste, qui se lancera dans une... Si nous ne prions pas, mais le Christ nous demande de prier pour que ça n'arrive pas. Alors vous voyez, à Dozulé, le Christ disait « Et ceci avant la fin du siècle ». Et nous, on était persuadés que c'était avant la fin du siècle. Heureusement qu'on était persuadés. Parce que sans ça, on n'aurait rien fait du tout. Si on savait qu'en 2025, on attendrait toujours, ben vous pensez bien que en 1983-84, on ne serait pas dépêché de faire des conférences partout en annonçant le jour de Yahvé, le jour de Yahvé, le grand châtiment, etc., etc. Non. Mais la conversion, enfin la consécration de Jean-Paul II a miraculeusement arrêté ces événements. Le Christ avait dit « Si l'homme ne s'y oppose pas, je laisserai agir. » Mais l'homme s'y est opposé. Et l'homme, c'était Jean-Paul II. Voilà. Et je peux vous dire que toute cette génération, il y a eu quand même deux générations depuis, qui ont vécu, eh bien, n'auraient pas existé. Ça, c'est certain. Parce que si les trois quarts de l'humanité disparaît, ben après, il faut du temps pour repeupler. Hein. Mais la Vierge dit bien à Kérésinène, là-bas ils ne veulent pas entendre parler parce qu'on annonce le roi, comme ils sont gauchistes et marxistes, « Ah non, 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 comment la Vierge peut parler d'un roi, vous pensez, ça c'est une invention des familles de Versailles. » N'importe quoi. Alors, en fait, Jeanne-Louise, que j'ai connue pendant 20 ans, n'a jamais rien inventé. Jamais. C'était la femme la plus discrète, la plus humble, la plus... Et elle était incapable d'inventer ces paroles merveilleuses sur l'Eucharistie dans la semaine eucharistique, ou ces prophéties se sont réalisées point par point pendant la guerre de 40, puisque ça a commencé en 38, hein, et jusqu'en 65, où la Vierge lui dit « C'est par la Bretagne qui m'est restée la plus fidèle que je veux rechristianiser la France, qui, revenue au Christ, redeviendra la lumière des nations. C'est dans ces temps lugubres que vous sentirez visiblement le miracle de ma présence parmi vous et que de mon manteau, je couvrirai ces terres bretonnes d'où doit surgir une France nouvelle, une France chrétienne, gouvernée par ce grand monarque, envoyé spécial de Dieu, sous le règne duquel toute justice sera rendue. » Ah, ça c'est formidable! Parce que la justice aujourd'hui, ça fait peur, hein. Sous son règne, la justice sera rendue et il évangélisera la France. Il balayera d'un coup de plume toute la constitution stupide sous laquelle nous vivons et toutes ces lois iniques et abominables qui sont dignes de l'Antichrist. Ce matin, je voyais encore un projet de l'ONU pour cette année, la CSW. C'est une commission pour, soi-disant, le droit des femmes, obliger toutes les nations à accorder l'avortement, même sans l'autorisation des parents, aux mineurs. Et obliger les médecins à ne plus du tout avoir de clause de conscience. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord pour l'avortement, ils sont éjectés, renvoyés des hôpitaux. Et vous vous rendez compte où on est rendu? Et ça, c'est qui? La secte, elle domine partout, cette secte mondialiste, franc-maçonne. Et le Christ, ici, annonce à Martine que le roi vient pour tirer la France des mains des francs-maçons. C'est cette franc-maçonnerie abominable, donc, qui, dans les loges, dicte toutes les lois qu'ils vont faire. Le divorce, l'avortement, la contraception, tout ça, c'est venu de ces loges, et aujourd'hui l'avortement et l'idéologie du genre, à tel point que maintenant il paraît que les mineurs ont le droit d'aller dans les mairies demander de changer de sexe sans l'autorisation des parents. Mais on est devenu complètement fou. Aucune civilisation n'est tombée aussi bas. Accepte, enfant, de croire ton Dieu tout-puissant,
peut bien faire enrayer toute machine de guerre par un seul grain de sable, tant est puissante sa main. Alors écoutez bien, parce que ça c'est capital. Et l'Esprit Saint soufflant peut bien souffler un grain, un seul grain, pour l'ensemble des machines de guerre, et faire venir la paix par la guerre évitée par un seul grain de sable. Imagine donc, enfant, peux-tu dire à l'instant qu'un petit grain de sable n'a pas d'utilité quand c'est l'Esprit de Dieu qui souffle au vent des Landes, qui souffle sur la France pour bien la protéger? Voilà. Voilà pourquoi il fallait parler de ça aujourd'hui. Priez, chers doux enfants, priez pour que le vent de l'Esprit Saint soufflant souffle les grains de sable dans la bonne direction pour enrayer toute machine de guerre par un seul grain de sable. Priez pour que Michel ne baisse pas sa garde. Appelez de vos cris et de tout votre cœur la parole, la parade de Michel, le guerrier de l'extrême. Priez pour apaiser le doux cœur de Marie qui pleure larmes de sang de voir son divin fils souffrir ainsi la croix. Priez par Père Joseph, le patron des familles, pour qu'il puisse simplement mettre toutes vos familles à l'abri du danger qui vous guette en ce temps où Satan se déchaîne pour vous éparpiller et vous faire déchirer vos contrats de mariage et ne pas accepter la venue d'un enfant. Priez par Père Joseph, il a l'écoute du Père et saura quoi faire pour sauver vos familles. Priez, Saint Hildegarde, priez les saints du ciel pour qu'ils fassent la garde par le puissant rosaire. Priez par les anges, Saint Michel, Raphaël et puis Saint Gabriel pour qu'il annonce la fin du règne de Satan. Priez par tous les rois de David à Louis, par tous les hommes de France qui ont fait grand travail pour relever la France. Priez, enfants, priez. Et Paris est sauvé, et la France est sauvée, et la terre tout entière. Alors voilà, c'est pour ça qu'il fallait qu'on se réunisse, pour qu'on prenne bien ceci. L'amour et la prière sauvent aujourd'hui la terre, car mes petits, mes preux, mes vaillants cœurs croisés ont mis dans la bataille toute leur force et leur vie, et tout abandonné à Dieu, à un trinitaire, en soumission totale. Ils ont prié le Père pour la France, pour le roi, que le roi seul envoie. Ne désespérez pas, croyez à la victoire. Dieu délivre son peuple, Dieu délivre la France par les enfants priants qui prient Marie la Mère de sauver noble terre par le puissant Michel. Le ciel est à l'ouvrage, cessez donc de trembler sur ce qui n'est pas fait. Croyez à la victoire. Dieu fait ce qui convient et intervient à temps. Je suis le Tout-Puissant et moi, puissant, je fais. Alors voilà pourquoi il faut que les cœurs croisés, nous ne sommes pas très nombreux, mais suffisamment, parce que dans la petite brochure, j'avais écrit au dos de la brochure que Lénine a dit que 6000 personnes s'étaient opposées dans les rues de Moscou aux bolcheviks en 1917, la révolution d'octobre aurait échoué. Vous voyez, ça tient un peu de choses, hein, parce que les actifs de la société sont très peu nombreux. Les trois quarts, c'est le troupeau qui suit. Le communisme n'aurait pas existé. 100 millions de morts, de misère, de torture, de goulag, de souffrance inimaginable n'auraient pas eu lieu. Et voilà la Ve République qui vacille sous les coups de butoir des scandales, de la dépravation généralisée, de l'effondrement moral et spirituel voulu et organisé, amenant la ruine programmée et la révolte sociale. Eh bien, face à ces désordres, soyons sereins, suivons les instructions divines, la libération des Français est proche, le plan de sauvetage de Marie est prêt, ce qui est pourri va tomber et ne pas se relever. Mais la France va retrouver son vrai et clair visage si nous réussissons à trouver 1000 volontaires pour prier chaque jour afin de faire intervenir les légions célestes. Rejoignez-nous par la prière quotidienne dans l'armée des cœurs croisés de l'amour. N'hésitez pas, n'attendez pas. L'heure est à la mobilisation générale des bonnes volontés. Soyez soldats de la prière pour la France. Voilà ce qui compte. Et c'est cette petite brochure qui nous réunit tous, vous voyez,
où ce sont les prières dictées par le Christ. C'est pas du tout moi qui les ai écrites. Hein. Et ce sont des prières dictées à Martine, qui a eu cette grâce d'écrire ça en écriture automatique. Plusieurs prêtres ont fait les préfaces de ces livres, notamment du tome 1. Le tome 1, vous le trouvez là-bas. Il y a aussi le livre que j'avais écrit qui s'appelle « La Nouvelle France », qui retrace toutes la grande vocation de la France, le testament de Saint-Rémy, de Saint-Louis, de Louis XVI, etc. Et aussi les principaux passages où le Christ parle du futur roi qui vient. Il pose une condition à ce roi pour bien répondre à ceux qui s'imaginent que c'est un retour aux privilèges qui n'ont jamais été aussi abondants qu'aujourd'hui pour les républicains. Et donc, oui, qu'est-ce que j'allais dire que
pour ceux qui s'imaginent que c'est un retour aux privilèges.
Oui. Il faut bien comprendre que la mission du roi, le Christ nous dit bien qu'il a une condition, ne posséder ni terre ni mur. Il doit être pauvre. Il a sa descendance et son ascendance derrière lui. Il descend de Saint-Louis, de la famille capétienne, et comme je viens de vous le lire tout à l'heure, sa généalogie remonte à la Sainte Famille. Aussi incroyable que cela paraisse, c'est pas Martine qui a inventé ça, ni moi. Nous sommes incapables, humainement, d'inventer tout cela. Voilà, donc, ce qui est important, vous voyez, c'est d'avoir donc en tête cette supplication du Christ qui nous dit: c'est en pleurant que Père vous demande de prier dans cet état d'urgence où est votre pays. Il faut vraiment faire des tours de garde. Ne baissez pas la garde. Soyez mes vigilants qui avancent, simplement vous baissant sous la croix, vous laissant emporter dans l'amour du Très-Haut. Il faut vous affirmer comme porteur d'espoir, l'amour contre la haine. Osez, chers doux enfants, rester dans mon Église. Pour bien la protéger, ne baissez pas la garde. Faites des tours de garde. Enchaînez les prières. Faites chaîne du rosaire. L'amour et la prière sauvent ici noble terre. L'amour dans la prière de l'amour, et la terre est sauvée. Et il nous dit de rester dans l'Église, même si certains pasteurs ne nous conviennent pas. Ils sont ma Sainte Église, ne jugez pas pour moi. Moi seul peux les juger, prier, et puis rester au sein de mon Église. Ceux qui devront partir, partiront de l'Église. Ce n'est pas à l'Église de vouloir séparer. L'Église du Grand Saint-Pierre reste la seule Église, enfant. Ne jugez pas, moi seul juge mes enfants. Je le promets, moi, Dieu, que mon Église résiste. Ne craignez pas, enfants, tous les coups de butoir qui ébranlent le chambranle. Je suis le seul à dire où sont mes gens d'église. Restez dans mon église, restez des tout-petits, et ne critiquez pas tous mes pasteurs qui tombent. Soyez bien mes lucides qui savez l'ennemi prêt à mordre mes gens quand un instant seulement il baisse un peu la garde. Satan est prêt à s'engouffrer dans la moindre petite faille quand tu baisses la garde. Dis à mes servants que moi, Seigneur, je sauve et je pardonne mes enfants qui me blessent. Je sauve et je pardonne. Soyez paratonnerre, ô enfants de ma garde. Soyez gardiens des âmes. Devenez le rempart devant notre ennemi. Enfants, vous qui savez que l'ennemi s'approche quand vous baissez la garde, faites des tours de garde en restant en prière devant votre Dieu Père. Et là, donc, le Christ nous parle évidemment de Saint-Rémy, l'histoire de France, par l'histoire de Clovis. Prier par Saint-Rémy, c'est l'histoire qui s'écrit en priant Saint-Rémy. Dieu a choisi pour la France d'aujourd'hui un roi suivant Rémy que Clovis a suivi. Priez donc. L'histoire de Clovis, c'est l'histoire de Rémy. Priez donc par Rémy, il peut vraiment
faire grand, pour faire grandir l'histoire, revenir à l'histoire de la très sainte ampoule, oui, l'ampoule de l'huile du Saint-Crème qui est arrivée quand toute la basilique de Reims était pleine à craquer, qu'on ne pouvait plus passer, une colombe est arrivée portant cette ampoule qui aurait été brisée pendant la Révolution, mais qui, paraît-il, est restée quand même suffisamment et qui est détenue par l'archevêque de Reims en ce moment. Revenez à l'histoire de la très sainte ampoule. Vous pourrez faire mémoire. Dieu écrit bien l'histoire. Dieu lui-même donne l'ampoule pour couronner son roi. Mais ça, c'est prophétique, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu lui-même donne l'ampoule pour couronner son roi. Dieu aimant ses enfants conduit tout droit son troupeau et Dieu demande aux francs de couronner son roi. Joli roi, roi de cœur, pour sauver le pays de Jeanne et de Clovis. Alors, évidemment, vous demandez ça aux gens de la rue, ils vont vous dire, non mais attendez, vous plaisantez complètement, hein, on est à fond dans les partis pour 2027, il y a Brunemain, machin, et ils sont tous là à se disputer la place. Ils oublient qu'une chose, c'est que tout le monde va être dans la rue dans très peu de temps, parce que l'effondrement économique va être tel que les caisses de retraite sont ruinées, ne pourront plus verser un sou, que vos économies sur les comptes bancaires seront vidées par les banques, qui sont propriétaires de vos fonds, par la loi Sapin, et qu'à ce moment-là sera la révolution. Parce que c'est pas les Arabes des banlieues qui vont faire la révolution. Ils en profiteront. Mais c'est tous les Français quand ils verront qu'ils n'ont plus un sou, et qu'on est à 100% dépendant de nos cartes bancaires qui seront d'un coup bloquées. Ça, personne ne s'y attend. Ces messieurs qui veulent être présidents en 2027, ils oublient que l'échéance financière est imminente. Le dollar est complètement endetté à un point inimaginable. Nous avons 3 400 milliards de dettes, plus les dettes des retraites de fonctionnaires, ça fait 8 000 milliards. On est incapable de les payer. Incapable. Donc, il va y avoir un coup de bourse sensationnel, un effondrement complet, et à ce moment-là, la révolution sera là. Eh bien, c'est à ce moment-là, quand les Français seront en courroux et qu'il n'y aura plus aucune légitimité, parce que la Vierge le dit à la Salette. Oui, je vais vous le lire, ça, parce que ça, c'est quand même reconnu par l'Église. Hein, reconnu par l'Église. Et donc, au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les crimes et les désordres des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé, Marseille engloutie. Alors nous prions pour que Paris ne brûle pas. Marseille engloutie, c'est autre chose. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel. Et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. Mais un désert, c'est quoi? C'est une terre où il n'y a pas d'arbres. Et c'est ça qui va détruire, malheureusement. Mais Dieu protège quand même la France. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié, la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Alors vous croyez que c'est... On voit ça sur Internet, c'est incroyable. Ils nous disent que l'Antichrist est pour le mois de juin. Il y a 7 églises dans la succession des églises de l'Apocalypse. 7.
Éphèse, Pergame, Thyatire, etc. Nous sommes à la cinquième, l'église de Sardes qui va de Charles Quint jusqu'à l'arrivée du grand monarque. La sixième église, c'est l'église de Philadelphie. Philadelphie veut dire amour. Et donc, c'est celle du grand triomphe qu'on vient de dire, là. La charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée. L'Évangile sera prêché partout, les hommes feront de grands progrès, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 années d'abondantes récoltes le feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antichrist avec ses troupes de plusieurs nations combattra contre le vrai Dieu. Et c'est là qu'il est dit que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Car nous arrivons à la Troisième Guerre mondiale qui sera arrêtée miraculeusement par ce signe de la croix. Et la Bretagne aurait cette mission de réévangéliser la France. Mais après... Le Christ le dit, enfin la Vierge le dit à Kérésinène. Dans quelques années, vous subirez une guerre. La France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. C'est là que les bons souffriront persécution de la part des sans-dieux. Mais que l'on fasse attention enfin à mes demandes et je vous préserverai de ces terribles ennemis. Et heureusement, elle donne l'espoir que ça n'arrivera pas. On peut prier pour qu'ils n'envahissent pas, ou du moins pour qu'il y ait moins d'exactions. Parce que Mère Yvonne Aimée, qui était à Malétroit, qui était une des plus grandes saintes, tellement extraordinaire que le Vatican dit qu'il y a trop de miracles, qu'il ne peut pas la déclarer sainte parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre tellement il y a de miracles autour d'elle. Eh bien, Mère Yvonne Aimée disait... que quand on lui demandait « Est-ce que le communisme sera vaincu ?», elle disait « Oui, mais après une persécution qui durera un peu moins d'un an, un peu moins d'un quart de l'occupation allemande. Un peu moins d'un quart. Mais que les exactions seraient sans comparaison avec les Allemands. » Alors, ben prions. Prions pour que ça n'arrive pas, pour que les Russes s'arrêtent sur le Rhin et se convertissent, parce que la famille des Romanov doit reprendre le pouvoir. Elle sera désignée miraculeusement par ce roi de France, qui, lui, a un pouvoir de vision des âmes et qui n'est pas de ce monde. C'est un envoyé spécial de Dieu. Il vient d'une autre terre, d'un autre monde, d'un autre royaume. Quand le Christ dit à Ponce Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde, sans ça mes gens seraient venus et m'auraient défendu », il parle d'un autre monde, d'un monde céleste. La Vierge à l'Escorial dévoile quelques petites choses extraordinaires sur ce monde céleste. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Mais mes enfants, ces demeures, levez les yeux, regardez le ciel, toutes ces planètes, ce sont les demeures du Père. Plus tu souffres sur cette terre, dit-elle à Amparo, plus tu auras une belle demeure. Regarde ces lacs, ces couleurs, ces fruits, ces couleurs que vous ne connaissez pas, ces extraordinaires paysages, comme il fait bon de vivre là. Et on part au supplie. Non, non, je ne veux pas revenir sur la terre. Non, non, laisse-moi ici. Elle vivait en esprit déjà, en vision, ces mondes extraordinaires. Ensuite, regarde cette terre, où les âmes sont moches, où tout est laid, où il n'y a que crime, confusion, vice, où tout est noir. Ce sont les demeures de Satan. Ben voilà. Le but de notre terre, et moi je suis bien content que dans les EMI, ils voient cet amour extraordinaire, parce qu'il y en a qui témoignent qu'ils voient arriver un vieil homme à travers ce tunnel de lumière, et tout d'un coup, il a 25 ans. D'un coup. Quand je vais à un enterrement, je me dis, ben maintenant, il a de la chance, celui-là, il a 25 ans. Et ben, ça, c'est une grande espérance, vous voyez, parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort du corps. C'est comme si on changeait de vêtements et on disait, on ne peut pas changer de vêtements, c'est impossible, il faut garder tout le même toute notre vie. Mais non, jamais de la vie, le corps n'est qu'un vêtement. On change Et l'âme continue son évolution à travers cette connaissance de Dieu. Hein. Cherchez le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par surcroît. Hein, l'Épître aux Éphésiens. Cherchez le royaume de Dieu. Alors ceux qui hésitent encore dans les prophéties, eh bien, chapitre 19 de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Et si vous gardez mes commandements et le témoignage de Jésus, les Juifs ont refusé le témoignage de Jésus. Ils ont refusé le premier avènement. Prions pour que l'Église reconnaisse le deuxième avènement et le témoignage de Jésus à Dozulé. Car depuis 2000 ans, jamais un message et des ordres du Christ n'ont été donnés à l'Église, même à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'était pour sauver la France de la Révolution et proposer à Louis XIV de mettre le Sacré-Cœur à la place du Roi Soleil, qui mettait partout. Il fallait mettre le Sacré-Cœur. 1689, un siècle plus tard, 1789, la fin de la monarchie. Il avait manqué le désir du Christ. Mais aujourd'hui, l'Église manque. Et moi, le 17 octobre, j'ai parlé pendant une heure avec l'évêque de Bailleul-Lisieux en lui disant « Si j'étais à votre place, je serais dans une joie extraordinaire. Parce que vous êtes le seul homme, en tant qu'évêque de Bailleul, à qui le Christ dit « Obéissez à votre supérieur », il parle à Madeleine, « Lui seul sur cette terre est chargé de faire la volonté de mon Père. » Alors, il était content. Oui. Car il tarde. Malheur au monde en péril, car il tarde. Et c'était dit en 1974. C'était pas Monseigneur Haber, c'était Monseigneur Badré. Alors, prions. Et alors, j'ai pas le droit de parler de Dozulé, mais je vais quand même vous dire, on va faire la prière de Dozulé, hein, parce qu'on n'a pas l'interdiction de prier. Eh bien, le Christ dit bien. Je promets. Et c'est une promesse du Christ, c'est pas une promesse d'un évêque ou d'un pape. C'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu. Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse qu'ils y trouveront la paix et la joie et que pour tout un temps de souillure, en un instant, ils seront purifiés. En un instant, ils seront purifiés. Et ils seront fils de Dieu pour la vie éternelle. C'est tellement extravagant pour l'Église d'entendre une parole pareille. Comment ils vont être purifiés en allant juste là? Oh, c'est une histoire d'argent, ça. C'est une histoire d'argent. C'est ce qu'a dit Monseigneur Badré. On a eu des contrôles fiscaux à tire-larigot pendant des années, à cause de ces mensonges. On n'a jamais accepté un droit d'auteur. Tous ces livres sont écrits sans aucun droit d'auteur. J'ai jamais voulu de contrat avec Résiac. On a toujours fait bénévolement. Et la seule chose qui compte, c'est que le Christ nous dit « Vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. » C'est pour ça que là-bas, sur la table, vous avez des messages de Dozulé. Je vous les donne. Ils sont gratuits. Prenez-les et distribuez-les. Et le Christ promet à cause de la désobéissance des prêtres. Jésus donne sa grâce à tous ceux qui font connaître son message et le mettent en pratique. Et donc, c'est une promesse extraordinaire. C'est comme si vous alliez vous jeter à l'eau pour sauver quelqu'un de la noyade. Eh bien, là, en donnant cette espérance à quelqu'un, vous le sauvez. Parce qu'il vous lui permettait d'aller à cet endroit extraordinaire où le Christ dit « C'est ici, sur cette montagne bénie et sacrée, que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. » Aucun évêque aujourd'hui n'a le droit d'interdire quoi que ce soit sur ces apparitions, pour une raison très simple, c'est qu'au mois de mai dernier, le pape a décidé que dorénavant, c'est le dicastère de la foi qui seul avait pouvoir de déclarer la surnaturalité d'un lieu d'apparition. Le dicaster, dicaster, ça veut dire dicastrion en grec, ça veut dire cour de justice. Donc, cette cour de justice, c'est le cardinal préfet du dicaster. Avant, c'était la congrégation de la foi. Avant, c'était le Saint-Office. Avant, c'était l'Inquisition. Hein, elle a fait brûler 3000 personnes pour sorcellerie. Eh bien, donc, il faut bien se souvenir maintenant qu'un évêque n'a plus le droit de se prononcer. C'est seul le dicaster de la foi. Alors, bien entendu, j'ai communiqué par son secrétaire particulier, dont j'avais les coordonnées, avec le pape François et avec le cardinal Fernandez pour... Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est quand même extraordinaire. Alors que tout ne vient que par des gens d'église. L'abbé Lorsay, qui pendant... jusqu'en 77, c'est-à-dire pendant... 5 ans a fait tous les procès-verbaux lui-même, datés, signés, etc., transmis à l'évêché, dans le plus grand secret. Personne n'avait le droit de parler. Madeleine n'avait même pas le droit de parler à son mari. Je vous dis dire quand même, c'est quand même incroyable. Interdiction de parler à son mari, de tout ça. On n'a pas le droit de dire ça à un époux, à une épouse. On brise le lien du mariage en faisant ça. C'est la chose la plus importante. Elle priait pour la conversion de son mari, qui ne croyait à rien. Et dès qu'il a entendu que... Elle lui a dit, mais j'ai vu le Christ, je l'ai touché. Toi, tu as vu le Christ? Il s'est converti d'un seul coup. D'un seul coup, vous voyez? Et combien de gens se sont convertis là-haut et pleuraient et ont été guéris miraculeusement. Dernièrement, on parlait il y a quelques jours là, d'une femme cancer généralisée en fin de cycle, guérie d'un seul coup en revenant. Je dis, mais allez témoigner, donnez votre témoignage. Bon, toujours est-il qu'on n'a pas le droit d'en parler. Alors, ce qui compte maintenant, c'est que vous ayez cette petite brochure et que vous priez tous les jours pour que ce roi soit protégé, pour que la France ne soit pas envahie, pour que la guerre nucléaire soit évitée, pour que le grain de sable dont parle le Christ là viennent dans les armes de guerre, pour que les avions soient détournés. Il nous le dit, priez pour que les avions soient détournés et que les bombes n'éclatent pas. Vous voyez, c'est quelque chose d'inouï, la prière. Est-ce que vous savez que sur la croix, les deux larrons, il y en avait un qui insultait le Christ et l'autre qui lui a dit, mais nous, on mérite ce qu'on a. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Vous savez ce qu'ils avaient fait pour être sur la croix? On ne le dit pas, ça. Ils étaient tous les deux, ils ont violé une mère de 5 enfants et ils l'ont assassinée. Tous les deux. Alors le bon larron dit à l'autre, mais nous on mérite ce qu'on a fait. C'est Catherine Emmerich qui rapporte ça dans ses visions, hein, les visions de Catherine Emmerich, qui était déclarée bienheureuse par Jean-Paul II. Eh bien... Plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde, dit le Christ à Dozulé. Plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Dites au mourant repentant que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. À l'instant même où leur âme quitte leur corps, ils se trouvent dans cette splendide lumière. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas du tout envie de vivre 150 ans. Hein. Et donc, voilà. Il faut avoir cette grande confiance. Et puis surtout, maintenant, il faut que nous prions avec ça. Vous voyez, parce que ce sont les paroles du Christ. Voilà. Et si vous voulez venir le samedi là-bas, si vous habitez pas trop loin, venez le samedi. En ce moment, c'est la chapelle de l'Immaculée, à Vannes, à Sainte-Anne-d'Auray, derrière la au fond de la basilique, là, derrière le cloître, à 14h le samedi. Et puis, sans ça, c'est au monument du comte de Chambord, dès qu'il fait beau. On fait ça ensemble, et on se connaît bien, et on reçoit bienvenue tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent. On voudrait beaucoup que les jeunes viennent, parce que les jeunes, c'est eux qui vont être concernés. Hein. Ils vont être concernés. Hein. On va faire la prière de Dozulé, si vous voulez.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus de Nazareth a triomphé de la mort. Son règne est éternel. Il vient vaincre le monde et le temps. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te persécutent aujourd'hui, encore plus qu'hier. Verse dans les cœurs humains ta miséricorde. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps, car le temps est proche et voici que je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour la France, pour que la guerre nucléaire soit évitée, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour Paris, pour que Paris ne brûle pas, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la protection de la Bretagne, pour qu'elle accomplisse sa mission, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le roi, pour qu'il vienne vite sauver la France, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour Jeanne d'Arc, puisqu'elle doit venir guider les Français et guider, protéger le roi, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toute la jeunesse, pour qu'elle retrouve la foi, qu'elle prie, qu'elle croit, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour l'Église, pour qu'elle soit protégée et que la Sainte Eucharistie triomphe dans le cœur des gens, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la paix sur la France, pour la paix sur Israël et le Liban, pour la paix sur l'Iran, la Turquie et la Grèce, pour la paix sur l'Ukraine et la Russie, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la Russie, pour qu'elle se convertisse et qu'elle protège l'Église et que la vraie paix vienne, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et joie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Les quatre lignes les plus importantes, qui sont la feuille de route de tous ceux qui vont écouter ou aller à Dozulé, c'est « Soyez toujours dans la joie ». Ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, car tout ceci doit arriver. Mais voici qu'apparaît dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Tous se frapperont la poitrine, alors s'accomplira le temps des nations. Après l'évangélisation du monde entier, alors je reviendrai dans la gloire. Voilà.
Il n'y est pas là-bas.
Non, j'en ai plus.
Vous en avez plus ?
Non, j'en ai plus parce que ça...
On peut pas l'acheter.
Si, on peut l'acheter, mais il a un autre titre. C'est « Le retour du Messie dans la gloire ». Mais ça, c'est aux éditions du Rocher. Ah oui, oui.
Les amis, excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Pour payer la salle, on va faire une petite quête, si vous voulez bien, parmi vous, pour payer la salle ici. Alors, vous pouvez, ici. Vous savez, c'est difficile d'avoir une salle. Au Palais des Arts, ils ont refusé parce que c'était religieux. Au Palais de... Et à la Maison des Associations, pareil. Il n'y a qu'ici qu'on n'a plus, et encore à condition de ne pas parler. Hein. Voilà.
Parce que si vous voulez, c'est apparu, vous savez, la généalogie des rois d'Espagne, de l'Espagne, ça a paru dans le ah, comment ça s'appelle, point de vue. Bien sûr, ils ont sauté 5 générations. Alors, je comprends pas le dictionnaire, mais j'ai pas très bien vu, c'est le premier ancêtre. Donc, je voudrais savoir, le duc d'Anjou, le roi d'Espagne, Elisabeth, princesse de Parme, c'est ça ? La prophétie abyssique de 1766, et ça, où apparaît la fameuse personne qui vit en concubinage, enfin, qui a eu un enfant avec eux.
C'est Marie-Louise de Bourbon-Parme, qui était la reine, épouse de Charles. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qu'il faut que je cherche pour acheter ?
Le retour du Messie dans la gloire.
C'est vous qui l'avez écrit ?
Oui, c'est le même, hein, c'est le même, mais c'est pas la même édition.
D'accord.
C'est le même, mais disons que... Bon.
Non.
Si vous voulez, je vous le donne. Hein. Vous voulez ?
Je vous le rendrai à la prochaine conférence.
Comme vous voulez, vous le gardez si vous voulez. Hein.
Vous êtes sûr, vous n'en avez pas besoin ?
Oui, j'en ai encore, oui.
Avec toutes vos annotations, vous en
avez... Ah bon, il y a des annotations ?
Ah, ben, y a que ça.
Ah, c'est parce que j'avais fait une correction pour les... Mais ça fait rien, vous pouvez le lire quand même.
D'accord.
Mais ce que je vais vous demander, alors Louis XIV, après, il y a Louis Grand Dauphin, épouse Marie-Anne, je ne sais pas quoi, Bavière, parce qu'il y a la deuxième fille, Philippe, duc d'Anjou, puis roi d'Espagne, et puis Elisabeth, princesse de Parme. Vous allez mal écrire, parce que je fais ça tout à l'heure, à toute allure, j'ai recopié ça, c'était sur le point de vue, et parce qu'ils font la généalogie, bien sûr, comme quoi l'autre, Louis XX, il descend bien de Louis XIV.
Ouf.
Mais je sais.
Ils ne veulent pas.
Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux savoir à quel endroit ça se fait, parce que vous voyez, Philippe, duc d'Anjou, après, il y a cette génération.
C'était sous Napoléon.
Ah, c'est très tardivant ou c'est...
Oui, c'est sous Napoléon, ça.
De quoi qu'il y a le bâtard ? Non, c'est des bâtards, je veux dire, c'est à quelle époque ?
C'était 1780, 1800...
Alors, c'est la princesse de Parme, c'est là, c'est la princesse de Parme.
Non, c'est pas Elisabeth, c'est Marie-Louise de Bourbon-Parme.
Je sais, alors, je veux savoir quelle vient.
C'est la femme de Charles de
Charles IV,
c'est le fils de qui ? Charles IV,
c'est le fils de Charles III. Et Charles III, c'est le fils de qui ?
Écoutez, prenez Internet et tapez Charles IV.
Ah d'accord, Charles IV. Je n'arrive pas à trouver la généalogie, justement.
Elle a été violée au temple. Oui, c'est épouvantable, sa vie, et puis elle est morte très vite.
Donc ça n'a rien à voir avec le cousin germain, c'est pas vrai du tout, c'est un génère, ouais. Elle n'a pas épousé son cousin germain.
Ah, pas du tout, la duchesse d'Angoulême, c'était pas elle.
Ah, d'accord.
Non. C'était Ernestine Lambriquet.
Alors comment vous avez vu, comment ça peut être sûr, Marie-Marie, elle a reconnu aussi Louis Bourg, la question. Louis XVII, comment la question, est-ce qu'il mettait le coup de l'Italie, comment ça peut être. Vous savez qu'il n'est pas régné, comment ça peut être.
Ah oui, oui. Charles X.
Non, le dernier, là, comment il s'appelle là, celui, là,
Louis-Philippe.
Non, celui qui était le miracle. Le miracle, c'était miraculeux. Vous savez, attendez, comment il s'appelle là, dans les frères de Louis XVI, il y en a un, dans les descendants, qui était le. Ah, celui que vous avez prié, le comte de Cédric, que vous avez prié à Saint-Anne-de-Rennes, comment il s'appelle.
Le comte de Chambord.
Oui, le comte de Chambord. Eh bien,
Savait que Louis XVII était vivant.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ça.
Et alors moi, c'est pas ça. Je voudrais bien y aller, mais c'est très facile. C'est pas très difficile quand on n'a pas de voiture. C'est pas facile. Hein. J'ai regardé moi, des villes, mais c'est à des kilomètres. Il faut prendre un taxi. C'est pas facile.
Ah hein. Bah non.
Non, mais c'est pour dire. Je connaissais pas
bonjour,
des groupes qui vont.
Bien.
Vous connaîtriez pas. Bonjour. Vous connaîtriez pas des groupes avec lesquels je pourrais y aller en voiture si j'avais.
Bah, si
vous connaissez pas des personnes. Moi, j'aimerais bien connaître quelqu'un qui. Vous voyez qu'il fasse des groupes sur le
Morbihan. Qui va en Vesulé.
Oui, qui ira à Vesulé. Il n'y en a pas dans le Morbihan.
Bah, je peux le mettre dans ma liste si vous voulez.
D'accord.
Et puis, vous me.
Dans votre liste, c'est-à-dire que je vous donne mes coordonnées, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, il faut que vous mettiez.
En fait, je serais intéressé par Kérésinet et par Vesulé. Parce que Vesulé, j'ai dû y aller deux fois.
C'est le bon Dieu qui décide parce que je ne connais pas faire cette confiance, je pense que ça va être un
problème. J'en ai parlé à quelqu'un de part qui sera à Paris tout à l'heure. Je ne sais plus ce que je vais vous dire en l'instant. Oui, j'ai été deux fois à Paris.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà, ça vous a
intéressé? On a révisé.
Alors, c'est bien
pour l'examen final.
Vous savez ça? C'est bien.
Donc, il faut que je vous donne mes coordonnées, comment ça se passe, pour savoir?
Oui, vous me donnez votre téléphone et votre prénom.
Alors, d'accord. Alors,
vous avez habitez un où?
Moi, j'habite Vannes. J'habite Vannes. Mais je l'ai connu en région Paris. À Paris, une fois, vous avez fait une conférence il y a très longtemps avec, comment on appelle ça, une radio qui était plutôt ésotérique. Comment ça s'appelle ici maintenant? Voilà. Et je vous ai vu il y a plusieurs années. Alors, dominicain.
Ici et maintenant, il y a longtemps de ça. Hein.
Ah oui, mais moi, je vous ai vu à ce soir-là pour la première fois. Moi, je vous ai vu.
Oui.
Hein.
Ça va?
Ça va.
Vous avez bien parlé quand même.
Oui.
C'est le bon Dieu qui vous guide. Je
vous félicite pour votre patience quand même, pour toutes ces décennies de patience.
Oui. Ah oui. Ça a commencé quand j'avais 15 ans, alors. Oui.
Oui, c'est
vrai. Le grand danger,
parce que
que quand on vient tous les jours là-bas,
oui, ça se peut, hein.
La seule raison que tu es dans les puissants, c'était que les jésuites nous disaient le rosaire.
Je lis, non, mais je crois que c'est ma sainte. Comment? Je l'appelle Joliette, Marie,
après que mes parents étaient sécuritaires de Saint-François. Voilà, ils allaient chez les Capucins. Voilà, c'est pour dire que mon père était un peu sauvage, mais moi je mange par fascination, je disais, je très mélangé. Mais des siècles, c'est lui, je disais, je crois, pour moi, c'est un peu assez bretonne, des plus inconnus. Et peut-être du Pays d'Astre, ça me prenait un moins de poids du coup, par exemple, oui, à l'époque, c'est mon point de vue, je l'ai dit sans Sébastien. Alors, moi, je ne sais pas. Je suis très, très mélangé. Et j'ai des antiques, même ici. Comment ?
Il est très important
aussi. Non, mais moi, c'est.
Tous les saints, on est là, tous les saints sont.
D'accord. Non, mais je vais
vous demander de vous expliquer pour la
conversation. D'accord. Oui, oui. Je vais dire ce que je fais. Bon, je fais le prix, je ne l'ai pas fait guère, mais je vais beaucoup le rencontrer maintenant à l'adoration, c'est pour sécuriser les francs-maçons. Et je vais beaucoup à l'adoration à Saint-Pierre maintenant, je fais seulement votre. Je vais à la messe et puis après je vais à l'adoration.
C'est très compliqué.
Oui, merci. Voilà.
Moi, je veux dire, j'ai eu des grands quand même. J'ai rencontré le père de Vernet, alors qu'il vient, il était en 1940. C'est le 19e qui fait une c'est très fragile. Et donc, puis en plus, ça, je descends, mais t'as rien à faire des régions différentes. Non, mais c'est pas moi, c'est surtout les. Non, mais c'est pas moi, c'est les cousins. Bon, c'est sûr que ça a fait des. Donc, de militaires de capitaine Montreux et des gens des impôts avec des régions complètement différentes. Parce que mon père était inspecteur des impôts, il a perdu chez 200 parce qu'on a une femme de gros, mais bon, hein. Et mon grand-père était conservateur des hypothèques. Alors, lui, il était de ma mère, c'est ma mère, alors mon père, c'est Provençal et Corse, ça n'a rien à voir. Et bien, je descends de Luco et de Monsieur Luco, qui est un fils, le 6e, c'est bien. Le premier maison, c'est mon fils Provençal. Moi, Luco, je descends direct. Et alors, après, c'est marqué quand on va à la mer. Et après, il y a un deuxième pour Luco, mais moi, je ne suis pas Luco, ils ont fait mon père. Lui, il a épousé une demoiselle de Guelph. D'accord, d'accord. Ah bon ? Et lui, il a pris la tête. Oui, mais c'est parce que c'est méridional, je suis comme ça tout le temps. Et là, non, ah, mais non, je suis très méridional. J'ai trois grands-parents sur quatre, je sais, j'ai trois grands-parents sur quatre minutes. J'ai trois grands-parents sur quatre minutes, je suis pas allé dans le nuit, mais c'est mes grands-parents, c'est nous, c'est deux sept. Hein, bon, voilà. Et donc, moi, mon grand-père, j'ai connu mon grand-père, ma grand-mère un petit peu. Mon grand-père, il parle d'un petit peu comme c'est moi quand j'ai fini. Il est mort en février 45, je suis dans un petit peu.
Au moins, il vous sauve.
Mais non, coupon, la petite couponne, quoi. La petite couponne, la petite couponne. Oui, bah oui, c'est ça. Je dis, non, mais c'est moi qui dis ça, j'ai fait la petite couponne. Ah non, c'est moi qui dis ça. Et alors, quand je suis peut-être mec, je vous dis encore une nouvelle chose. Donc, je suis en train de vous parler que le premier du roi, donc le 7e enfant, capitaine de l'Église, parce que lui, il était maître de dames de plusieurs générations. Et donc, après lui, son fils a épousé une demoiselle de Guelph et son père. Elle était pleine canique, le tour du parc ici. Et cette fille, son père était fermier général, c'est celui qui gérait l'argent du temps de roi. Et incroyable, mon père, ça n'a absolument rien à voir, rien à voir. C'est par un militaire de carrière qui avait sa femme qui était alsacienne, dont son père était conservateur des hypothèques. Mon grand-père, après la suite, ça n'avait rien à voir en famille de région, il était alsacien, lui, il était de la province et de la Corse. Et donc, lui, il prend dans ça, sa femme, il prend dans sa Corse, je descends en ligne directe. Et donc, lui, il était conservateur des hypothèques, mais ça n'a rien à voir, c'est que j'ai joué complètement différent. Et quand je retourne du côté de mon grand-père, par mon père, il y a un malin qui était qui était et après son fils, pas n'importe qui, mais il était médecin militaire, diplômé de chirurgie, Montpellier, en même temps de Napoléon.
Merde, je sais pas comment...